Heureux de vous retrouver dans les jardinières pour cette première en ma compagnie. Je ne suis pas seul. Bonjour Noélie.
Bonjour Léo.
On continue cette saison en compagnie de Rebecca Luchinger. Bonjour Rebecca.
Bonjour.
Vous êtes agronome au Jardin des Senteurs à Neuchâtel. Merci d'être notre invitée ce matin.
Soyez les bienvenus dans les jardinières. On est ensemble jusqu'à 8h.
7h, 8h. Les jardinières.
Rebecca, avant d'attaquer notre thème du jour, rappelons que c'est le premier week-end du mois de septembre. Les jours plus froids sont devant nous. Mais j'imagine qu'on a de quoi faire au jardin pour ce mois de septembre.
Mais oui, il y a toujours tellement de choses à faire au jardin et surtout en ce début d'automne. Donc on peut aller tailler, récupérer les graines des différentes fleurs qu'on a au jardin. On peut préparer le sol pour les plantations des haies, des plantes vivaces. Des petits fruits, des arbres, en venant désherber, en rajoutant du compost. Donc ouais, l'automne, c'est vraiment la saison parfaite pour la plantation de ce type de plantes. Et ouais, on a vraiment plein de choses à faire. On peut laisser le lierre sans le tailler, car il est en fleurs en ce moment et c'est une des dernières nourritures pour les abeilles.
Merci Rebecca, vous êtes notre invitée jusqu'à 8h. En seconde partie d'émission, vous répondrez notamment aux questions jardinage de nos auditeurs et auditrices. Des questions qu'on attend déjà par téléphone au 0900 70 20 20 ou alors par SMS. Il suffit de taper le mot jardin, laisser un espace suivi de votre question et votre nom et vous nous envoyez le tout au 939. Et la troisième manière de s'y prendre pour nous envoyer votre question, c'est par formulaire, la manière la plus simple. Vous allez sur notre site avec une possibilité de joindre une photo à votre question.
7h, 8h, les jardinières.
On parle toujours jardinage jusqu'à 8h et ce matin, on découvre un matériau surprenant, le compost de champignons. C'est ce qu'il reste après la culture des shiitakes ou des pleurotes par exemple. Et il peut être utilisé au jardin. Nous sommes en compagnie de Rebecca Luchinger, agronome au Jardin des Senteurs à Neuchâtel. Rebecca, avant de voir comment on l'utilise, ce fameux compost, j'aimerais déjà qu'on comprenne bien ce que c'est, de quoi il est composé exactement et qu'est-ce qu'il rend si intéressant pour nos plantes.
Alors, oui, c'est un super matériau. Le compost de champignons, qu'on peut aussi appeler substrat de champignons ou compost de champignons épuisés, c'est un mélange ou la base qui a servi à cultiver des champignons. Donc, ça se présente sous forme de blocs dans les chambres de culture. Donc, c'est un bloc assez compact à base de sciure et de mycélium. Donc, si on parle de substrat qui a été utilisé pour la culture des shiitakes ou des pleurotes, il va être majoritairement composé de sciure de bois. Alors que si on parle de celui qui a servi à la culture de champignons de Paris, il va être à base de fumier, de cheval, de tourbe et de calcaire. Et bien sûr, les deux types de substrats vont être inoculés avec le mycélium de champignons désirés, qui va venir coloniser tout le bloc de culture en formant tout un réseau mycélien, donc ses racines de champignons, si on veut, qui peut être de couleur blanc ou brun. Et ce qui le rend intéressant, c'est sa teneur en azote, en phosphore et en potassium. Et il est aussi très riche en matière organique. Donc c'est ça qui va être surtout très intéressant au jardin. Donc il va venir améliorer la structure du sol en l'allégeant, en retenant l'eau, mais en restant aussi drainant. Et il va surtout stimuler la vie microbienne du sol.
Et comment on sait si ce compost, il est bon pour le jardin?
Alors, une des choses que j'aime bien dire aux gens qui viennent au jardin, c'est surtout le comparer au paillage à base de paille. Donc, l'avantage du compost de pleurote ou de shiitake, c'est que le mycélium, c'est lui qui va venir dégrader la cire de bois et transformer ce compost et devenir... et venir apporter la matière organique au jardin en stimulant la vie microbienne. Et contrairement à cette paille, qui est souvent utilisée pour conserver l'humidité du sol en paillage, qui demande beaucoup d'énergie au sol pour être décomposée, ici, dans le cas du compost de champignons, c'est vraiment le mycélium qui va s'occuper de cette dégradation et donc l'énergie du sol va pouvoir être vraiment conserver et améliorer et vraiment utiliser pour la croissance des végétaux.
Rebecca, dans quelle situation du potager est-ce qu'il est le plus intéressant d'en ajouter? Est-ce que c'est plutôt directement au potager, dans les massifs ou même au verger?
Alors, on peut vraiment l'utiliser partout. Il va venir vraiment améliorer la structure du sol et puis favoriser la vie microbienne. Donc, pour moi, il est bon à utiliser vraiment partout, que ce soit le verger, le potager. Après, on peut l'utiliser en complément ou en surface, et puis pas en excès, évidemment, comme un peu tout. Et parce que sinon, il peut venir brûler certaines plantes qui sont un peu plus fragiles. Mais après, il faut vraiment en utiliser en grande quantité pour que ça arrive. Donc oui, vous pouvez l'utiliser partout.
On parle souvent de mycélium vivant qui subsiste. Qu'est-ce que ça change pour les plantes ? Est-ce qu'on peut dire que ça joue un rôle de coup de pouce invisible pour les racines ?
Oui, c'est vraiment un très très bon coup de pouce. Quand on ajoute le compost de champignons frais, le mycélium est encore vivant. Donc il est affaibli parce qu'il aura été utilisé pour 2, 3, voire 4 cycles de production de champignons. Mais il est encore bien vivant et vous verrez même que si vous le rajoutez au jardin, il y aura des champignons qui vont apparaître et qui vont pousser. Donc c'est toujours assez sympa d'aller faire sa petite cueillette de champignons. Mais au bout d'environ un mois, si vous rajoutez rien, donc si vous rajoutez pas du compost de champignons ou même de la cire de bois pour lui redonner à manger, le substrat va finir par être complètement décomposé et donc le champignon va mourir. Mais après, il vous aura créé une super matière organique et puis c'est vraiment ça qu'on cherche et qu'on veut au jardin.
Et côté pratique, est-ce qu'on peut l'utiliser tel quel, en paillage directement ou vaut mieux le mélanger à la terre comme un amendement ?
Alors, idéalement, c'est bien de l'incorporer un peu à votre terre ou même simplement de le mettre directement dans votre compost parce qu'il, bah, comme dit avant, il stimule vraiment la vie microbienne. Donc rien que de le mettre sur le compost, ça va être bien. Mais nous, au jardin, on le met simplement en surface et les vers de terre et autres organismes viennent vraiment l'incorporer plus profondément dans votre sol.
7h, 8h. Les jardinières.
Et vous êtes avec nous sur RTN, RFJ, RJB. Les jardinières vous accompagnent jusqu'à 8h. On parle compost de champignons ce matin. On a vu avec Rebecca Luchinger, qui est agronome au Jardin des Centaures à Neuchâtel, comment utiliser ce compost de champignons au jardin. Rebecca, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce compost, il améliore leur croissance, leur résistance ou même leur récolte ?
Alors, bah, le compost de champignons, c'est, bah, comme on a dit avant, c'est vraiment un super amendement naturel. Donc au jardin, on l'utilise comme un terreau d'enrichissement. Enfin, en tout cas, après la décomposition, ça va devenir vraiment une matière organique assez intéressante, donc d'où le terme de terreau. Et on peut l'incorporer au sol ou l'étaler en paillage. Donc il va venir alléger le sol, il va garder une meilleure humidité et nourrir toute une vie microbienne du sol. Donc, résultat, les plantes vont être plus vigoureuses, elles vont être plus résistantes à la sécheresse et on va avoir de plus belles récoltes. Puis, le fait d'avoir des plus belles récoltes, c'est aussi dû à une association symbiotique entre le champignon et les racines des plantes qu'on va appeler mycorhizes. Et donc ça va vraiment... Il y aura un échange de différents éléments qui vont vraiment être bénéfiques pour la plante.
Quand on parle de substrat vivant, on pense tout de suite aux champignons et aux racines qui travaillent ensemble. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu ce phénomène de mycorhize et pourquoi il est si précieux pour le jardinier ?
Oui, alors la mycorhize, c'est une association naturelle symbiotique entre les racines des plantes et certains champignons du sol. Donc là, avec la pleurote ou les shiitakes, ça marche aussi. Et le champignon va développer un vaste réseau de filaments qu'on appelle le mycélium. Donc c'est vraiment ces racines qui peuvent être blanches ou brunes, qui sont dans le sol, qui agit vraiment comme une extension des racines des plantes parce qu'elles vont venir se lier à... Enfin, le mycélium et les racines de plantes vont vraiment se lier entre elles. Et ce réseau va augmenter énormément la capacité de la plante à capter l'eau et les éléments nutritifs comme par exemple le phosphore, l'azote et d'autres oligo-éléments. Et en échange, la plante va fournir aux champignons des sucres qui sont issus de la photosynthèse. Et pour le jardinier, c'est vraiment une alliance qui est super parce que bah, les plantes vont être plus vigoureuses, elles vont résister mieux à la sécheresse et aux maladies, et le sol devient plus vivant et fertile. Et ça, c'est vraiment toujours un plus.
On entend dire que ce compost, il permet aux plantes de mieux capter l'eau. et les nutriments, comme le phosphore, par exemple. Vous l'avez constaté sur certaines cultures en particulier ?
Alors oui, cette symbiose est vraiment très bénéfique pour les plantes. Après, nous, au jardin, on l'a vraiment observé sur nos cultures en pleine terre, donc que ce soit culture d'agrumes, tomates ou les cultures potagères en général. Cette année, nos choux, ils sont immenses. Après, évidemment, c'est aussi dû à une assez belle saison, donc ça aide. Après, le visuel, la texture et l'odeur du compost en fin de décomposition en dit vraiment long sur la qualité de ce compost et du coup la qualité du sol. Et donc je suis plus que convaincue que c'est un apport assez magique, quoi. Après, il faudrait qu'on fasse des analyses un peu plus poussées en laboratoire pour en dire un peu plus sur... avoir plus de détails, quoi.
On imagine assez volontiers, Rebecca, qu'il y a des erreurs qui sont faites assez trop fréquemment, trop de compost, pas assez, ou une mauvaise utilisation. Quelles sont les principales précautions à connaître pour éviter les mauvaises surprises ?
Alors, ce qui n'est pas très bon dans un compost, c'est vraiment quand on a des fermentations anaérobies, donc c'est-à-dire une fermentation sans oxygène. Donc elle peut se produire si la couche de compost qui est appliquée sur le sol ou dans notre compost est vraiment trop dense et justement on va créer des poches où l'oxygène ne peut plus passer. Mais honnêtement, là, si on parle du compost de champignons, il faudrait vraiment en mettre, je ne sais pas, 50 cm sur le sol et puis encore. Parce que le mycélium fait tellement bien son travail que le risque est assez faible. On rencontre plutôt ce type de fermentation dans un gros compost qui est trop tassé ou s'il y a trop d'eau et qu'il y a des poches d'eau qui stagnent. Là, on aura une mauvaise aération. Ensuite, je déconseillerais d'utiliser ce compost de champignons dans les plantes d'appartement parce que les cyarides, donc c'est ces petites mouches de terreau, vont vraiment adorer aller pondre là-dedans parce que justement, c'est un substrat qui est tellement fertile. Elle est assez chaude, donc elles aiment bien. Donc nous, typiquement au jardin, on n'utilise pas ce compost dans nos serres, dans les cultures en pot, parce qu'il fait plus humide et plus chaud. Et du coup, la population de cyarides explose si on utilise ce compost.
Les jardinières.
Vous êtes avec nous, les jardinières qui vous accompagnent jusqu'à 8 heures. On parle toujours compost de champignons ce matin. On a vu avec Rebecca Luchinger, agronome au Jardin des Senteurs à Neuchâtel, comment utiliser ce compost de champignons. Mais Rebecca, tout le monde n'a pas le même type de sol. Est-ce que ce compost, il est utile aussi bien dans une terre lourde et argileuse que dans une terre légère et sableuse ?
Alors oui, je dirais qu'on peut l'utiliser dans tout type de sol parce qu'il va venir amener de la matière organique et des éléments nutritifs disponibles directement aux plantes et ça, quel que soit le sol. Donc il est selon moi presque plus... il est plus intéressant de l'utiliser dans un sol qui est lourd parce qu'il va venir l'alléger et il est aussi intéressant de l'utiliser dans nos sols calcaires parce qu'il va venir amener un peu d'acidité grâce aux enzymes qui sont sécrétées par le mycélium pour décomposer la sciure de bois. Donc c'est toujours bien, on a toujours... c'est toujours un petit peu trop calcaire et il y a pas mal de plantes qui aiment bien avoir un peu d'acidité quand même.
Rebecca, il y a cette question un peu insolite mais passionnante. On dit que le compost de champignons pourrait aussi dépolluer des sols contaminés. Vous pourriez nous en dire un peu plus ?
Alors, oui, c'est vraiment une utilisation assez incroyable du compost de champignons. Donc en fait, ici, on va parler de mycorémédiation. Donc c'est un domaine où les champignons jouent un rôle étonnant dans la dépollution des sols et des eaux. C'est surtout utilisé aux États-Unis et au Canada pour l'instant. Donc le mycélium de certains champignons, comme celui de Pleurotus ostreatus, donc ça c'est la pleurote en huître qu'on trouve dans nos commerces et qu'on mange, quoi. C'est vraiment une pleurote assez commune, on va dire. Et donc celle-là, elle va produire des enzymes qui sont vraiment très très puissantes et capables de dégrader des polluants chimiques comme des hydrocarbures, des pesticides, des métaux lourds ou même certains plastiques. Après, bien sûr, il y a d'autres champignons qui ont aussi ces capacités à créer des enzymes vraiment très très puissantes. Et en fait, elles vont venir transformer ces molécules nocives en composés moins dangereux ou même en nutriments qui sont utilisables par d'autres organismes. Après, la seule chose qu'il faut faire attention, si on utilise justement sur un sol contaminé ce compost de champignons, on aura quand même des champignons, enfin la fructification, donc le champignon qu'on mange qui va pousser. Et là, ce serait peut-être mieux de ne pas le manger parce qu'il va stocker justement ces éléments polluants.
Les jardinières.
Et les jardinières ne s'arrêtent pas en si bon chemin. On vous parle jardinage jusqu'à 8h et plus particulièrement de compost de champignons. Ce matin, nous sommes en compagnie de Rebecca Luchinger, agronome au Jardin des Senteurs à Neuchâtel. On a vu ensemble comment l'utiliser, ce qu'il apporte aux plantes, les précautions à prendre. Vos conseils et vos explications seront à retrouver en podcast en cours de matinée sur notre site. Il est maintenant temps de passer à vos questions, auditeurs, auditrices. C'est à vous de nous écrire.
Que ce soit des questions en lien avec le compost de champignons ou toute autre chose, appelez-nous pour poser vos questions au 0901 70 20 20 et vous aurez l'occasion de parler directement avec Rebecca. Vous pouvez aussi nous envoyer une photo via le formulaire disponible sur notre site ou alors simplement nous écrire un SMS. Vous tapez le mot « jardin » suivi d'un espace, votre question et votre nom, et vous nous envoyez le tout au 939.
Et on vient déjà de recevoir une première question qui nous a été envoyée au préalable. Elle nous vient de Christophe de Kourou, qui demande, comme constaté dans d'autres vergers de la région, je remarque que sur mes arbres, les pommes pourrissent et tombent en grande quantité, bien qu'elles ne soient pas encore mûres. Pourquoi ce phénomène? Que faire pour éviter cela?
Alors, je pense que ça doit être une maladie fongique qui s'appelle la moniliose, donc qui crée une pourriture brune sur les fruits. Et ouais, c'est la cause la plus fréquente des pourritures des fruits sur les arbres, même si les fruits ne sont pas encore à maturité. Donc, ça vient de spores de champignons qui se développent à partir des fleurs, donc au printemps, et qui est surtout favorisé par l'humidité, donc la pluie. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? C'est là maintenant, éliminer les fruits et les rameaux malades, parce que les spores de champignons vont après passer l'hiver dans le sol, et du coup, le plus on élimine, le moins il y a de risques que ça revienne. Et malheureusement, là, on ne peut rien faire pour sauver les fruits atteints. Donc ça sera plutôt printemps qu'on va venir faire des soins pour renforcer l'arbre. Donc on peut pulvériser un fongicide, il y a différents types de fongicides, mais on peut pulvériser à la base de... Enfin, sur les feuilles, on peut faire un purin à base de prêle qu'on va venir pulvériser avant la floraison et on va répéter le traitement après la chute des pétales. On peut aussi utiliser du cuivre, ce qui est un autre traitement. Et voilà.
Merci Rebecca. On a une autre question qui nous vient de Monique de Fleurier. Elle nous dit « J'ai un bouleau d'environ 40 ans qui est cette année envahi de chenilles du bouleau. C'est la première année et il mesure une vingtaine de mètres comprenant 4 troncs. Elle nous pose cette question. Est-ce que ce bouleau va passer l'hiver et est-ce qu'il faut faire le point au printemps ?»
Alors, moi, je pense que si ce bouleau a déjà 40 ans, il va... Je lui donnerai quand même beaucoup de chance, il va passer l'hiver. Là, on parle sûrement de la phalène du bouleau, c'est un papillon de nuit, donc qu'on retrouve assez souvent sur le bouleau. Je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Après, c'est possible qu'il y ait eu cette attaque cette année, parce qu'on a eu quand même deux épisodes de canicule qui est quand même venu affaiblir les arbres et du coup un arbre affaibli est aussi attaqué plus facilement, mais je me ferai pas trop de soucis.
Et on a encore une question d'Elisabeth de Perry qui nous demande comment faire arriver ces petits citrons à maturité sans qu'ils ne tombent. On vous a fourni une photo.
Oui. Alors oui, sur la photo, on voit un peu que les feuilles ont des lignes un peu plus jaunes. Et ça, c'est vraiment un signe de carence. Donc, il ne faut pas hésiter quand on voit ça de tout de suite venir apporter de l'engrais. Donc, les citronniers sont très vite carencés en magnésium et en fer. Donc, si on peut leur apporter ces éléments, c'est bien. Après, c'est aussi des cultures qui sont assez gourmandes en eau. Donc, il ne faut pas hésiter à bien arroser les citronniers. Il ne faut pas qu'ils soient détrempés et qu'ils aient les pieds, enfin, le bas du pot, s'ils sont en culture en pot, comme là sur la photo. Il ne faut pas que ça stagne dans l'eau non plus. Mais ça va être quelque chose qui va vraiment favoriser la maturation des fruits. Après, s'il y en a quelques-uns qui tombent, ce n'est pas non plus quelque chose d'anormal. Et parce que voilà, il y a une floraison vraiment presque un peu excessive sur les citronniers pour donner le plus de chance aux fruits. Donc voilà, il se peut qu'il y ait une très bonne pollinisation cette année. Donc il y a beaucoup de fruits qui ont noué. Et du coup, il y aura quand même quelques fruits qui vont tomber, mais c'est assez normal.
Les jardinières.
Je vous le disais, ce matin, on a parlé de ce fameux compost de champignons, ce substrat qui peut redonner vie à nos sols et aider nos plantes à pousser plus vigoureusement. Vous pourrez retrouver tous les conseils de Rebecca Luchinger en cours de matinée en podcast sur notre site. Rebecca, avant de vous laisser filer, au-delà de ce compost dont on a parlé ce matin, qu'est-ce qu'on peut faire au jardin ces prochains jours ?
Alors, on peut s'intéresser à nos plantes tomates qui vont quand même continuer à produire des tomates là en septembre. Mais les plants vont gentiment commencer à s'épuiser avec le manque de chaleur et la lumière qui va aussi diminuer. Donc on peut venir tailler le haut des plants et ce qui va permettre à l'énergie de la plante de se concentrer dans la maturation des derniers fruits. Et on peut aussi éliminer les feuilles du bas pour aussi mettre toute l'énergie dans les fruits. On peut venir tailler, récupérer les graines des différentes fleurs au jardin. On peut préparer le sol pour les plantations des haies, des petits fruits, des arbres, et puis toutes les plantes vivaces. Donc cette préparation du sol peut être faite en désherbant et en rajoutant du compost. Parce que l'automne, c'est vraiment une saison parfaite pour la plantation de ce type de plantes. Donc oui, mais vous pouvez planter plein de choses en automne.
Merci beaucoup Rebecca. On rappelle que vous êtes agronome au Jardin des Senteurs à Neuchâtel. C'était un plaisir de partager ces instants radio à vos côtés. À bientôt.
À bientôt. Merci beaucoup Noélie.
Merci Rebecca. La semaine prochaine, c'est Pierre-Yves Turcher, paysagiste à Tavannes, qui sera l'invité des jardinières. Bon week-end Noélie.
Un bon week-end Léo.
7h, 8h, les jardinières.